Vous êtes sur RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin Raphaël Glucksmann, tête de liste Place Publique, Parti Socialiste aux élections européennes.
Et merci beaucoup d'être ce matin sur RTL. Bonjour Raphaël Glucksmann.
Bonjour.
Un mot d'abord, si vous voulez bien, de l'Ukraine, que vous connaissez bien. Vous avez conseillé des leaders politiques pro-européens il y a quelques années. Dimanche, un comédien au programme quand même assez flou s'est fait élire à une écrasante majorité face à Porochenko, qui est anti-Poutine et accusé de corruption. Aventure dangereuse pour les Ukrainiens ou pas ?
Grand flou, mais surtout état démocratique. Il y a eu une campagne électorale, le président a perdu, il se retire. C'est un exemple quand même pour toute cette région où les transitions ne se font pas facilement. Et par ailleurs, un clin d'œil à tous ceux qui pensaient que la révolution ukrainienne était un coup d'état fasciste, on se retrouve quand même avec un président et un premier ministre qui sont tous les deux juifs et partisans des droits des minorités.
Ok, vive la démocratie, la transition se fait, cela dit, c'est la victoire de la politique spectacle, Raphaël Glucksmann, sur la politique traditionnelle. On a le sentiment que les électeurs veulent par-dessus tout la rupture, peu importe le flacon finalement, pourvu qu'on ait l'ivresse du changement.
C'est partout le cas, c'est le dégagisme, c'est la volonté de donner un coup de balai à chaque élection. Et ça peut donner des choses positives, ça peut aussi donner des catastrophes. On voit le succès en Italie d'un personnage comme Beppe Grillo, qui est le fondateur du mouvement 5 étoiles. C'est un moment de crise des démocraties libérales, c'est un moment de crise de la politique. Il n'y a plus de vision, il n'y a plus d'horizon collectif. Et du coup, on vote un peu comme on vote chez Monsieur Hanouna ou dans un reality show. On vote pour dégager. Pour dégager les sortants, pour dégager les présents, pour dégager ceux qui ont un projet. Et c'est un moment dangereux, oui, pour les démocraties.
Alors, vous, au contraire, moi, c'est cohérent avec ce que vous dites, c'est pas la rupture, hein, Raphaël Glucksmann. À part votre visage, qui est nouveau dans le paysage politique français, vous êtes tête de liste du PS, alors, avec deux autres petites formations, mais enfin, pour l'essentiel, vous charriez, vous emmenez le Parti Socialiste, qui est un parti fatigué, usé, tout sauf nouveau.
C'est au contraire une tentative de renouvellement. Vous savez, le rassemblement à gauche, c'est une idée neuve apparemment, puisque tout le monde veut y aller avec sa propre chapelle. Nous, ce qu'on essaye d'initier, c'est une dynamique de rassemblement. C'est l'idée que face au péril, le péril climatique, le péril de dislocation du projet européen, le péril social, puisqu'on traverse quand même une crise sociale d'une ampleur sans précédent en France, eh bien, il faut se réunir et essayer de porter des combats communs.
Vous auriez pu rester place publique, finalement, aussi tout seul, avec justement une idée neuve. Là, non. Vous avez décidé d'être le porte-drapeau d'un parti, encore une fois, qui est très fatigué.
Mais qui incarne la social-démocratie, qui incarne justement l'idée d'une société fondée sur un équilibre social. Moi, je m'inscris dans cette tradition-là. Je me suis toujours inscrit dans cette tradition-là, dans la tradition de Jaurès, de Blum, la tradition aussi de Michel Rocard ou de Jacques Delors. Moi, je crois à cela. Mais vous savez, on disait que le Parti Socialiste était mort en Espagne il y a encore 2 ans. Et aujourd'hui, Pedro Sanchez va gagner les élections. Et qui est la personnalité politique la plus populaire de Belgique ? C'est le socialiste Paul Magnette. J'étais avec lui il y a une semaine encore.
Vous en parlez beaucoup de Paul Magnette.
Bien sûr,
pourquoi,
parce que je pense que c'est
votre
le renouveau.
Héros européen ?
Mais non, mais c'est le renouveau de la gauche européenne. C'est une gauche qui a compris qu'il faut rompre avec...
Il ne veut pas sortir de la Belgique. Hein. On lui a proposé de prendre la tête de liste du Parti Socialiste français. Il a dit non, donc il va rester en Belgique.
Mais bien sûr, et Pedro Sanchez, il va rester en Espagne. Mais ensemble, on fait ce qui s'appelle une gauche européenne. Et qu'est-ce qui fait ce renouveau ? Pourquoi Paul Magnette est-il si populaire aujourd'hui chez les militants socialistes ? Parce qu'il a rompu avec le dogme du libre-échange. C'est l'homme qui a résisté au traité de libre-échange avec le Canada. Et c'est ça l'avenir. C'est la même chose dans la gauche américaine. C'est l'idée qu'on sort de cette religion et qu'on fait de ce marché qu'est l'Europe et qui est aujourd'hui ouvert aux quatre vents, enfin une puissance politique protectrice.
Vous le faites avec qui en Europe ?
C'est
toute la question qu'on vous pose aujourd'hui. Donc, vous incarnez, vous êtes vous-même, vous présentez comme le finalement représentant le plus europhile des candidats sur cette élection. Vous prétendez changer quoi et surtout avec qui ?
Mais déjà, je m'inscris dans une perspective qui est celle de la social-démocratie européenne, en expliquant que la seule manière de la revitaliser, c'est sa conversion à l'écologie. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les élections européennes, vous savez, c'est pas le nouveau monde d'Emmanuel Macron. Le nouveau monde d'Emmanuel Macron, il n'existe pas à l'échelle européenne. Il n'y a pas le face-à-face entre lui, les progressistes, et de l'autre côté, les nationalistes. À l'échelle européenne, ce qui domine, c'est encore ce clivage gauche-droite. L'enjeu des élections européennes, c'est de savoir qui sera le premier entre le groupe conservateur libéral représenté en France par M. Bellamy et le groupe social-démocrate, le SND, PSE, représentée en France par ma liste. Et c'est ça l'enjeu principal. C'est
mais à l'échelle européenne, pardon, Raphaël Glucksmann, ce groupe auquel vous vous ralliez, qui est le groupe social-démocrate socialiste, pardon, mais c'est l'inertie. C'est le statu quo à l'échelle européenne, non ?
Non, c'est pas l'inertie, c'est pas le statu quo. Regardez ce qui se passe. Je veux dire, vous avez un pays juste à côté de la France qui s'appelle l'Espagne. Et je vois pas en quoi c'est le statu quo, le projet de Pedro Sanchez pour son pays. Non, je pense au contraire qu'il y a un vent qui se lève aujourd'hui en Europe d'une social-démocratie qui a vu la mort en face et qui a compris donc qu'elle devait se rénover. Même la gauche américaine, regardez, même la gauche américaine en vient à rompre avec la religion du libre-échange et de l'ouverture à tout prix de toutes les frontières. Même la gauche américaine propose ce qui est notre projet, eh bien, d'un nouveau contrat social fondé sur l'écologie.
Emmanuel Macron aussi, d'ailleurs, il vient de s'opposer aux États-Unis pour un accord de libre-échange.
Moi, je suis pas un opposant pavlovien. Quand il fait une chose bien, je le dis, il a raison de s'opposer aux accords de libre-échange avec les États-Unis. Mais enfin, son projet est tout sauf une rupture, il ne faut pas prendre les gens pour des idiots, est tout sauf une rupture avec le dogme du libre-échange et avec le libéralisme économique. Son projet, c'est la continuation de la même politique économique. Et c'est cette continuation de cette politique économique, c'est précisément ce qui va mener l'Europe dans le mur.
Moi, je considère aujourd'hui que Raphaël Glucksmann n'apporte aucune garantie de clarté sur ce qu'il fera. C'est ce qu'a dit Benoît Hamon dans le grand jury RTL Le Figaro dimanche, LCI. On ne peut pas être anti-libéral à Paris et libéral au Parlement européen. Il fait référence effectivement au fait que vous ralliez ce groupe qui vote avec le PPE régulièrement.
Et nous, on le rallie sur une base qui est la fin de ces grandes coalitions qui ont vidé les institutions européennes de toute substance politique. Il faut revenir à des clivages, mais à des clivages qui ne soient pas moi ou le chaos, qui est le clivage proposé par Emmanuel Macron, qui est donc une sorte de kidnapping, mais qui est un clivage entre deux visions de l'Europe. Il y a une vision de l'Europe qui veut proclamer, c'est la nôtre, un état d'urgence écologique et social dans le pays. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire avoir une politique d'exception écologique au traité de libre-échange, une politique d'exception écologique aux 3% et à l'austérité budgétaire, une politique d'exception écologique à la,
mais c'est bien, au dogme. Non, mais vous savez bien, les 3%, pardon, c'est respecté par personne. C'est un dogme qui est écorché ou en tout cas amendé en permanence. Vous êtes d'accord ?
Non, mais bien sûr que tout le monde. S'émancipe de la règle, mais ce qu'il faut, c'est officialiser le fait qu'on sorte les dépenses liées à la transformation écologique et à l'accompagnement social de cette transformation écologique de ce culte de l'austérité budgétaire. Et c'est une entaille qui sera possible, qu'il sera réaliste de faire. Ça suppose pas de changer les traités européens, ça. Ça suppose un règlement qui se vote à la majorité qualifiée des États et des populations. Et surtout, c'est un argument pour essayer de convaincre les Allemands de rompre avec leur dogmatisme sur cette question, en disant à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle.
On remet pas en cause la rigueur. Vous la financez par une taxe sur les transactions financières. Hein. Vous lancez une banque du climat, 500 milliards d'euros abondés par une taxe sur les transactions financières, comme Yannick Jadot d'ailleurs, la même chose.
C'est le pacte finance-climat porté depuis longtemps par Pierre Larrouturou et Jean Jouzel. L'idée, c'est très simple, c'est mettre la création monétaire de la BCE au service de la transformation écologique. C'est mettre aussi un budget climat au service de cette transformation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va créer un impôt sur les bénéfices des sociétés.
Un nouvel impôt.
Sur les bénéfices des sociétés, vous savez, les dividendes versés aux actionnaires explosent. C'est pas un impôt qui visera les TPE-PME, c'est un impôt qui visera les grands groupes.
Et uniquement les grands groupes. Vous pouvez instaurer un impôt uniquement sur les grands groupes.
Mais bien sûr, il faut différencier l'impôt désormais. Bien sûr, c'est bien tout le problème de l'imposition, c'est qu'en fait, on traite tout le monde de la même manière et résultat, ça bénéficie aux plus grands groupes. Mais je vais vous expliquer, aux États-Unis, qui est quand même pas un pays communiste, vous serez d'accord, aux États-Unis, le taux d'imposition est resté à 38% sur les bénéfices des sociétés depuis Roosevelt. Avec le Big Bang libéral fiscal de Trump, il est descendu à 24%. Vous savez ce que c'est le taux moyen en Europe ? 19%. C'est-à-dire qu'on a un pays beaucoup plus libéral que les États-Unis. Un continent beaucoup plus libéral
c'est
que les États-Unis.
Argument.
Donc, ce qu'il faut, c'est un impôt européen. Mais pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi. Parce que personne aujourd'hui n'explique comment il va financer ce qu'on demande de faire à l'Union européenne. Il faut que le budget européen augmente si on veut que l'Europe ait les moyens de répondre à la crise économique.
Vous voulez des fonds propres pour l'Europe, effectivement. Oui. Un petit mot, parce que je parlais de Benoît Hamon tout à l'heure. C'est à lui ou à Jadot que vous pensiez quand vous avez dit la gauche mentalité de videur de boîte de nuit ? Pas très aimable. Hein.
Mais non, je pense à toutes ces chapelles qui regardent la pureté de l'autre, alors même que la gauche est politiquement en crise. Moi, ce que je pense, c'est qu'on devrait arrêter de regarder d'où on vient et définir un projet commun et s'unir autour de ce projet commun. On sait tous que tout le monde va partir ensemble.
Vous tentez de sauver un parti socialiste que Benoît Hamon a quitté, que Yannick Jadot a mis à distance. Comment vous pouvez vous étonner de rester tout seul ?
Je ne tente pas, déjà c'est pas moi qui suis tout seul en l'occurrence, mais je ne tente pas de sauver un parti socialiste, je tente de rassembler le maximum de forces politiques autour d'un projet qui est celui d'un renouveau de la gauche, parce que moi je pense qu'il y a des millions d'orphelins aujourd'hui de la gauche dans notre pays et qu'ils attendent une offre politique cohérente.
Donc vous ne désespérez toujours pas au fil des interviews, continuez de dire venez à moi, venez à moi. Emmanuel Macron, un môme qui joue avec une boîte d'allumettes ou un baril de poudre. Raphaël Glucksmann, ça c'est une autre de vos punchlines que vous multipliez décidément. C'est pas un peu condescendant, cela dit, de le traiter de môme, le président de la République?
Moi j'ai dit, j'ai du respect pour la fonction, mais je m'étonne. Un président qui est élu dans une situation que tout le monde sait extrêmement dramatique. Quand il est élu, on voit Marine Le Pen au deuxième tour. On sait qu'il faut de la gravité. On sait qu'il faut réconcilier les Français. C'est son projet. Et les premières choses qu'il fait, eh bien, il fait des cadeaux fiscaux aux plus riches et il multiplie les petites phrases arrogantes. Et donc, c'est dangereux. Voilà ce que je veux dire. C'est que c'est dangereux.
Il est dangereux,
Emmanuel
Macron. Là,
vous avez 6 mois d'une crise sociale sans précédent. Et à quoi on assiste? On assiste à un cinéma pour savoir quand est-ce qu'il va parler, comment il va parler. On assiste à un jeu. Et je pense que les premières mesures qui ont fuité, j'espère que c'est pas ça ce qu'il va annoncer.
Parce que c'est vraiment pas à la hauteur. Si vous deviez lui poser une question dans la conférence de presse de jeudi, là, à 18h, ce serait laquelle?
Mais où vous voulez amener la France? Dans quelle direction? Quel est le sens de votre politique? Quel est votre projet? Assumez un projet. Si c'est un projet sarkozyste, travaillez plus pour gagner plus, assumez-le.
Travaillez plus, non, c'est pas possible. Parce que c'est le débat
assumez-le.
En ce moment.
Assumez-le, qu'il assume. C'est ça ce que je dirais. Assumer un projet, redonner du sens. Vous parliez de renouer avec l'héroïsme politique. Vous disiez qu'il fallait des grands chantiers, monsieur Macron, quand vous avez été élu. Des grands chantiers, un nouveau contrat social pour notre pays. Vous disiez ça. Et résultat, on a un catalogue de mesures qui ne fait pas sens. Vous ne faites plus sens. Et c'est ça l'angoisse. Moi, ce que je vous propose, monsieur Macron, c'est d'avoir un grand plan pour notre jeunesse. Aujourd'hui, on a des élections européennes et personne ne parle de la jeunesse. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est très simple. C'est un Erasmus pour tous. Aujourd'hui, il y a 3% des jeunes européens qui bénéficient de ce programme. Ça veut dire qu'on est en train de reconstituer une aristocratie, comme au XVIIIe siècle. Une élite qui se sent européenne.
C'est-à-dire étendue à qui, l'Erasmus? Parce qu'il
à l'ensemble des jeunes européens. Entre 16 et 25 ans, une bourse qui peut aller jusqu'à 5 000 euros pour mener un projet éducatif ailleurs en Europe.
Vos propositions que vous ajoutez aujourd'hui à votre programme.
Une bourse pour mener un projet éducatif, un projet associatif, un projet professionnel, un projet d'apprentissage. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y aura jamais d'Europe s'il n'y a pas un sentiment partagé d'appartenance à l'Union européenne. Or, aujourd'hui, il n'y a qu'une élite qui bénéficie de l'Europe et qui connaît l'Europe. On n'arrivera pas à faire une démocratie européenne si on ne constitue pas ce sentiment d'appartenance chez tous les jeunes.
Un dernier mot, mais vraiment très très vite. Vous parlez d'élite, supprimez les c'est de la démagogie ou après tout dans ce pays qui n'arrive pas à faire de la diversité pourquoi pas de mettre un coup de pied dans la fourmilière? Oui,
mais le coup de pied dans c'est un gadget, pourquoi pas, mais c'est un gadget. Le coup de pied dans la fourmilière, ça serait que les lobbyistes d'Areva cessent de devenir premier ministre et que les gens qui sont au pouvoir, qui sont des énarques au pouvoir, répondent à des codes de déontologie et de séparation des intérêts privés et de l'intérêt général bien plus puissants qu'actuellement.
Merci beaucoup Raphaël Glucksmann, qui n'est pas énarque, qui n'est pas d'ailleurs philosophe non plus, qui est essayiste et surtout tête de liste aux européennes. Bonne journée à vous.
Merci.
Et qui vient de nous dire vouloir faire de l'Europe une puissance protectrice. Seule la conversion et l'écologie sauvera la social-démocratie, nous a dit Raphaël Glucksmann. L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site...